told her not to grieve after me. It's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. Oh, it's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. It's a when I'm gone, Sally, don't you grieve. And I told her not to grieve after me. Bedroom woman just singing the blues, heard the radio telling the news. Said the Big Red Army took 100 towns and allies, dropping them 2-ton bombs. Started hollering, yelling, dancing up and down like a bullfrog. Doorbell rung and in come a man, signed my name, I got a telegram. If you want to take a vacation trip, got a dishwashing job on a Liberty ship. Woman a-crying.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et là, bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Séduit par une voiture 1900 qu'il venait d'acheter, Luc, épaté, cassa ce tape-cul. Luc, épaté, cassa ce tape-cul. Bah, il faut dire qu'il avait fait un festin bien arrosé. Alors, on l'a conduit à l'hôpital. Il était blessé. Et même là, et il a ergoté cet ogre alité. Et il a ergoté cet ogre alité.
Et c'était le cri de Gérard Durand. Bonjour à toutes et à toutes, auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. Pour l'émission Sibis Passem, qui est animée par les membres du groupe parisien de l'Union Pacifiste, qui est la section française de l'Internationale de Résistance à la Guerre. Bonjour Alta.
Bonjour papa. Bonjour chères auditrices. Bonjour chers auditeurs.
C'est en famille que nous allons présenter ce nouveau numéro de Sibis Passem. Oui. Voilà, donc... pour vous dire, je vous lirai l'édito de d'Yves Locard, qui sont toujours délicieux. Mm-hmm. Et Nous parlerons aussi de quelque chose qui va se passer entre le 17 et le 21 juin, c'est Eurosatory, le
marché des armes à feu.
Et on espère que on a prié que les Israéliens ne viennent pas à Eurosatory pour éviter qu'il y ait quelques genres des bombes qui soient lâchées en plein à Villepinte, en plein milieu du spectacle, comme ça. Oui. On leur a demandé, je ne sais pas. Mais vous aurez un petit papier conçu par Serge, qui anime Trou Noir, tous les lundis de 18h à 19h30, et que j'ai trouvé formidable, et qui parle justement de cette chose-là. Oui. Voilà. Ainsi que des choses sur le SNU, entre autres. Mais Elsa a aussi des petits papiers à vous lire. Aussi.
Oui. La dernière fois, je n'avais pas pu lire un article biodiversité de Plantes et Santé, que fait la police de l'environnement. Donc, ça va être l'occasion là de me rattraper. Et ce sera suivi par un dossier Greenpeace, décryptage de l'exploitation minière des fonds marins.
Oui, en ce moment, ils grattent le fond.
Oui.
Non seulement ils font fondre les glaciers pour voir ce qu'ils peuvent exploiter sous la glace de l'Arctique et de l'Antarctique, parce que comme ce sont des anciens continents et on sait que quand la Terre s'est formée, il y a eu des tas de chamboulements, et il y a plein de trésors qui sont encore enfouis dans les roches.
Bah, oui,
on exploite déjà le pétrole au Sahara. Vu que c'était une ancienne forêt, tout ça et tout.
Oui. Alors, il suffit de voir sur la Terre des dinosaures pour avoir une idée de ce que c'était.
On le recommande, c'est un beau coffret. Je crois qu'il y a 5 ou 6 CD, un truc comme ça, DVD.
Oui.
Et si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire ou pour dans quelques mois pour Noël, offrez ça à vos enfants. Vous allez être... nous-mêmes, heureusement qu'on était assis, sinon on serait tombé plus bas. Ça montre vraiment comment la Terre s'est créée, tout ça, c'est fabuleux.
Oui. Un bon cours d'histoire, non censuré.
Non censuré, et à portée de tout le monde. Voilà.
En effet.
Pour ceux qui veulent sauvegarder ce qui reste de Terre saine en ce moment.
Voilà. En effet.
Voilà. Bon, à toi la parole, Elsa.
Alors, biodiversité, mais que fait la police de l'environnement ? Face à un effondrement sans précédent de la biodiversité, des acteurs agissent sur le terrain pour faire appliquer les objectifs ambitieux annoncés par les gouvernements et lors des COP. À quoi ressemble le quotidien de cette police de l'environnement ? Et lui donne-t-on des moyens à la hauteur des ambitions affichées ? Une garde monitrice du parc national et un spécialiste en droit de l'environnement nous répondent. En Europe, une espèce sur 5, animale comme végétale, est en péril d'extinction et 15% des espèces de la flore sauvage de l'Hexagone sont menacées de disparition, principalement à cause des différentes activités humaines, mais aussi par le pillage plus ou moins organisé de la nature. Ainsi, chaque été et chaque automne, les massifs du Jura et des Vosges continuent de voir affluer des balais de cueilleurs en bande organisée. Ces derniers pillent par centaines de kilos, voire par tonnes, des cèpes et des myrtilles que l'on y trouve en grande quantité. À l'hiver 2021, dans des forêts ariégeoises ou audoises, des bûcherons étrangers employés par une société espagnole de sylviculture n'ont pas hésité à abattre des murs et portiques municipaux afin de couper illégalement avec leur engin près de 400 chênes, sapins et frênes situés sur des propriétés privées ou publiques. Et chaque année, des parcs nationaux comme celui de Mercantour se voient pillés de leur euphorbe épineuse ou euphorbia spinosa, des petits buissons très répandus en région méditerranéenne utilisés pour confectionner des couronnes de Noël. Face à cette délinquance environnementale, des acteurs agissent concrètement pour tenter de faire appliquer les objectifs ambitieux de préservation de la biodiversité annoncés en grande pompe lors des COP. Ils forment ce que l'on appelle la police de l'environnement. Parmi ces derniers, on compte 1700 inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité, OFB, ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ONCFS, qui exercent au niveau régional ou départemental et dispose de pouvoirs de police administratifs et judiciaires pour prévenir et sanctionner les atteintes à l'eau, la faune ou la flore. Ils peuvent également conduire des enquêtes. Au sein d'autres services, on trouve des agents ayant généralement une mission de police de l'environnement parmi les autres missions, des agents techniques, conservateurs des réserves naturelles, gardes du littoral et gardes champêtres, ainsi que certains agents assermentés de collectivités territoriales. Les gardes-moniteurs des parcs nationaux jouent également un rôle crucial en matière de police de l'environnement. Comme nous l'explique Géraldine Coste, garde-monitrice sur le massif de l'Aigoual, au cœur du parc national des Cévennes, cette tâche occupe environ un quart de son temps de travail. Elle consiste à faire de la veille, c'est-à-dire à bien connaître le territoire et à aller à la rencontre de ses habitants, agriculteurs, exploitants notamment. Mais aussi de la surveillance en veillant à ce que la réglementation du parc soit appliquée. Lors de missions programmées, elle et ses collègues surveillent les cueilleurs, pêcheurs, chasseurs et touristes afin que ceux-ci respectent les quotas de cueillette, ne fassent pas de feu ou de camping non autorisés. Il arrive aussi que des missions aléatoires s'imposent à eux, comme lorsqu'ils constatent qu'un agriculteur a décidé sans autorisation de créer une piste ou qu'il laboure une prairie sensible. Pour protéger les 2300 espèces de plantes à fleurs et fougères qui poussent au sein du parc national des Cévennes, Géraldine Coste et ses collègues mettent en place des actions concrètes de prévention en alliance avec les agriculteurs locaux et exploitants forestiers. Ainsi, des effets positifs ont été observés sur le lys de Saint-Bruno, Paradisea liliastrum, un lys blanc très parfumé, qui a été protégé par la mise en place d'exclos, des enclos interdits au pâturage. Alors qu'il devrait décliner en raison du réchauffement climatique, il semble désormais se maintenir, voire croître. Deux autres espèces rares que l'on trouve cette fois en forêt, la gagée jaune, Gagea lutea, et l'érythrone dent de chien, Erythronium duncanis, peuvent parfois être protégées des diverses activités forestières par un signalement à l'ONF et un marquage sur place via des balises ou de la peinture qui oblige à contourner les zones concernées. Présente sur le terrain, la police de l'environnement des parcs nationaux a ainsi la capacité d'agir avant une infraction ou en urgence avant que celle-ci ne prenne des proportions graves ou irrémédiables. Ainsi, chaque année, certains parcs réalisent jusqu'à 1000 contrôles de surveillance. Comme l'explique Géraldine Coste, au printemps, les actions concernent plutôt la pêche. Les week-ends de mai, ce sont surtout les touristes, notamment ceux qui ne respectent pas les aires et règles de camping et de bivouac. À l'automne, le brame du cerf et la cueillette des champignons, limités à un panier par personne, font grimper les interventions. Et l'hiver, c'est principalement aux chasseurs que l'on demande de bien respecter les consignes de sécurité et celles liées au gibier. En 2019, 684 infractions ont été relevées par les agents de la police de l'environnement qui travaillent au sein des 10 parcs nationaux français, à l'exception du parc national des forêts. Le parc national des Calanques, qui souffre énormément du tourisme, de diverses pollutions, mais aussi du braconnage en mer, détient la palme avec 189 amendes par an et 63 procès-verbaux. Le parc national de Mercantour vient ensuite. Celui des Cévennes arrive en troisième position, suivi des parcs nationaux de Port-Cros à Hyères et de la Vanoise dans les Alpes. Tous ces parcs, comme celui des Cévennes, sont habités. Cela signifie, explique Géraldine Coste, qu'ils subissent de nombreuses pressions exercées par les activités des agriculteurs, exploitants forestiers, mais aussi par les manifestations sportives qui peuvent s'y tenir. Pour autant, explique Xavier Brault, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et spécialiste en droit de l'environnement, ce ne sont pas forcément les particuliers qui enfreindraient le plus les lois de la biodiversité. Les lois censées protéger l'environnement sont très mal appliquées, c'est certain. Tout le monde les bafoue. Mais de façon générale, c'est surtout l'administration et l'ensemble de la chaîne judiciaire qui s'abstiennent de les faire respecter. Il cite en exemple les particuliers qui taillent leurs haies au printemps sans faire attention aux nids d'oiseaux, mais explique aussi que ces infractions sont souvent le fait d'entreprises ou de collectivités locales, ce qui peut poser des conflits d'intérêts. J'ai souvent eu des recours selon lesquels certains agents de préfecture ou de l'Office français de la biodiversité qui veulent bien faire leur travail sont freinés par leur hiérarchie. Les préfectures, par exemple, favorisent quasi systématiquement les activités économiques au détriment des lois visant à protéger la biodiversité. Deux autres acteurs méconnus jouent également un rôle de police environnementale, la police nationale et surtout la gendarmerie. Selon Xavier Broad, les gendarmes sont en effet les premiers policiers de l'environnement, notamment parce qu'ils couvrent l'ensemble du territoire et pas seulement les parcs et réserves naturelles. Compétents pour constater toutes sortes d'infractions pénales liées à l'environnement, comme des aménagements de plans d'eau agricoles non autorisés, les gendarmes ont le mérite d'être plus indépendants que des employés des services de l'État, donc plus efficaces, selon Xavier Brault, et il ne faut pas hésiter à leur signaler des infractions, ne serait-ce que pour leur permettre de mesurer l'ampleur de la délinquance environnementale. Fin 2023, le gouvernement a présenté sa stratégie nationale biodiversité 2030 avec plusieurs objectifs ambitieux. Faire passer 10% du territoire national sous protection forte en tant qu'aire protégée d'ici 2030, ou encore restaurer 50 000 hectares de zones humides d'ici 2026. Il a également annoncé vouloir stopper puis inverser l'effondrement de la biodiversité et s'assurer de garantir les moyens d'atteindre ses ambitions. Sur le terrain, la garde monitrice Géraldine Coste constate au contraire un décalage entre les ambitions affichées et les moyens réellement déployés. Seuls 17 agents de terrain œuvrent actuellement dans son parc national contre une trentaine en 2005 à son arrivée. « Cela fait longtemps que l'on réclame plus de moyens », déplore-t-elle. « Un catalogue de belles ambitions », commente Xavier Brault, pour qui des gesticulations politiques supplémentaires ne sont pas nécessaires puisque nous avons tout l'arsenal juridique suffisant. Il en est convaincu, le problème n'est pas vraiment le manque de moyens, mais la structuration et l'organisation, notamment de la chaîne judiciaire, qui porte très peu d'affaires devant les tribunaux. Pour que les actions menées par les différentes polices de l'environnement soient efficaces, il reste persuadé que nous avons besoin de magistrats motivés. Or, déplore-t-il, les structures tournent souvent à vide et les magistrats sont freinés par les services de l'État et changent trop régulièrement de poste pour être réellement efficaces. Plutôt que d'empiler les législations successives, il faudrait, selon ce spécialiste, continuer d'encourager la création de tribunaux régionaux, comme c'est le cas depuis 2021 avec la création de 37 pôles régionaux attachés à un tribunal judiciaire et spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement.
Ah, c'est ça.
Ils disent que ça sent mauvais autour de mon usine. Je conteste. Je dis non. L'expert n'a rien senti, lui. Alors ils ont dit qu'il avait de la sinusite. Oh, quelle mauvaise foi. Ça n'a pas de nom. Ah, je les retiens, mes voisins. Quand je pense à leur HLM, où il y a toujours quelqu'un qui a un chou-fleur à faire cuire. Non, ils veulent m'emmerder, c'est tout. Ces gens-là sont tous les mêmes. J'ai réussi. Alors ils peuvent pas me sentir, c'est tout. Ils peuvent pas me sentir. Tenez, j'habite avenue Mozart, premier étage, au-dessus d'un fleuriste. Il y a des jours où ça sent très fort le mimosa. Parce que j'en fais un plat, moi. Est-ce que j'en fais des pétitions au ministre? Mais non, je prends la voiture, je vais faire un tour au bois. La semaine dernière, pour faire un test, j'y suis allé à l'usine. Je suis resté devant la porte un bon quart d'heure. Aucun malaise, peut-être un léger mal de tête, mais quoi, avec deux aspirines, envolé en douceur. Mais rien n'arrête la calomnie. Du coup, mes ouvriers décrètent qu'ils ne veulent plus mettre leurs masques à gaz. Que ça les complexe d'avoir tous la même tête. Que ça les déprime, que ça les déphase. Y a plus d'oiseaux, plus de mouches à 3 km à la ronde. Mais alors, est-ce qu'on a besoin de mouches pour travailler? On veut des mouches maintenant. Et pourquoi pour des chaises longues? Et des rafraîchissements, des attractions pendant qu'on y est? Que je me reconvertisse, au fond, voilà. Voilà leur thèse. Alors que mon produit est de première nécessité. Sans lui, fini la bonne, la saine, la franche gaieté française. Oh, mais ça va, j'ai compris. Ils sont payés par l'étranger. Mais je ne céderai pas. Je tiendrai bon dans la tourmente. J'appellerai la police, l'armée, la marine, l'aviation, les pompiers. espier le contre-espionnage, et sous leur protection, je les fabriquerai mes boules puantes.
Oui, vous allez me demander qui c'est ce chanteur. Eh bien, c'est M. Jacques de Broncard. C'est un disque qui est sorti dans les années 1974 et que EPM a eu la bonne idée de remettre, de faire un coffret en hommage à de Broncard. Un coffret de 5 CD qui regroupe tout ce qu'il avait pu enregistrer de son vivant. C'est ça. Et vraiment, ça concorde bien avec ce que ça vient de vous lire. Comme ça. Donc, ce coffret est sorti chez EPM et vous pouvez vraiment, si ça aussi c'est une idée de cadeau, hein, parce que ça coûte vraiment moins de 30 euros. Donc, je veux vous dire, et vous avez des textes savoureux interprétés par un grand chanteur qui malheureusement est assez oublié. Mais grâce à nous et grâce à d'autres animateurs de Radio Libertaire, on va les passer dans beaucoup d'émissions. Voilà. Merci à EPM d'avoir eu cette très bonne idée. Donc je vais vous lire la rétrospective d'Yves Lecard. L'âme humaine. Seuls les fusils ont des âmes, ironisait Camus dans Le Renégat, tiré de livre L'Exil et le Royaume. Mais non, mon cher Albert, je dirais même le contraire. Seuls les fusils n'en ont pas. Les fusils, ou au sens large, les armes, et ceux qui les utilisent, ceux qui en ont besoin, ou qui simplement obéissent à l'ordre de s'en servir, à défaut de se servir d'un cerveau. Cet organe en forme de noix, il n'est pas artificiel. Il permet, lorsqu'il n'est pas embrumé par quelques mauvais bourrages de documents, quelques mauvais terreaux, l'échange verbal, l'échange de pensées, l'échange d'idées. Cela la perd leur âme. Les âmes n'ont pas d'âme. Ce serait même le contraire. À défaut d'une âme, on prend une arme. On se donne un R de plus. Je prends l'âme dans son sens non pas religieux, mais humain, en synonyme de conscience, dans le sens où Stephen Zweig les évoque en notant de figures de grands noms, Tolstoï, Nietzsche, Dante, Whitman, que nous pourrons citer derrière lui, auxquels nous pourrions en ajouter bien d'autres, dont je ne ferai pas l'inventaire, de peur d'oublier quelques inconnus, quelques âmes fortes, pour reprendre Giono, quelques âmes mortes, pour reprendre Gogol, quelques âmes humaines, trop humaines, quelques âmes sensibles, sensibles. Reste-t-il quelques âmes vivantes, quelques forces vives, capables d'imposer la paix, le seul combat qui vaille d'être mené pour rester fidèle à notre homme révolté, le monde que l'on dit moderne et qui n'est pas tant que cela, puisqu'il demeure figé dans des schémas classiques, classés, placés une fois pour toutes comme vérité absolue, universelle, par la loi de la jungle, la loi de la junte, la loi de la honte, je tue il, et vice-versa, je tuerie. Rappelle-toi, Barbarie, la mort a donc toujours le dernier mot, le dernier cri, le dernier crime. La guerre comme règle de pouvoir, comme règle de conduite, comme seul moyen d'échange, de pensée, d'idéal. La peine de mort à grande échelle, même dans les pays dits civilisés. Ça me rappelle Brel. Peine de mort appliquée, sans jugement, sans distinction. Les distinctions viendront après pour récompenser les assassins, les tueurs en série, les terroristes. Et combien sont vraiment récompensés. Peine de mort universelle unissant tout le monde, surtout les innocents, sans distinction d'âge. Comment peut-on être à la fois civilisé et militarisé, à la fois humain et inhumain? Seuls les fusils n'ont pas d'âme. Pas d'état d'âme. Les âmes d'état drame d'État, raison ou déraison d'État. J'entends par fusil sa métonymie, autant que celui qui tient le fusil que celui qui l'ordonne. Autant celui qui, pour paraphraser l'âme de Prévert, qui me le pardonnera, celui qui donne des fusils aux enfants que celui qui donne des enfants aux fusils. Tous ceux qui cassent le monde en petits morceaux. Petits morceaux. Sceaux d'hommes égaux morts. Pour rester avec ce poète porteur de bonnes paroles, contre la guerre et la bêtise, non seulement le fusil n'a pas d'âme, mais il semblerait qu'il annihile, qu'il déteint l'âme de son propriétaire, de son serviteur, de son utilisateur. Le fusil a parlé, pas l'homme, pas l'humain. Seul l'humain a une âme. J'entends par humain tout ce qui vit, tout ce qui participe de l'humanité, de la vie, de la paix, et je pense alors à l'âme du violon, instrument qui n'est pas fait du même bois, si je puis dire, que le fusil, qui ne parle pas la même langue, qui ne touche pas la même zone, la même faune. Je pense à la musique, je pense à l'art, pas à l'art de la guerre, qui n'existe pas plus que l'âme des fusils, mais à l'art de la vie, l'art de la joie, l'art de la paix, qui n'est pas des plus faciles à enseigner, du moins pour nos civilisations décivilisées. L'art de la paix, l'âme de la paix, qui pourtant devrait être si simple, simple comme deux et deux font quatre, comme eux et eux font l'être, simple comme l'apprentissage de l'ABC, simple comme bonjour, ce bonjour que l'on souhaite machinalement, que l'on se souhaite machinalement, base de nos échanges d'êtres civilisés. Mais quand le show en question s'apprête à nous jouer un bon tour, un dernier tour de roue, dernier tour debout, dernier jour debout, il suffit que l'on enseigne autre chose, autrement que l'on croit autre chose qu'à la force armée, qu'à la force normée, qu'à la vertu de la guerre, qu'à l'âme des fusils, âme fatale, âme futile. Qu'on commence par considérer la musique, la poésie, la peinture, l'art non plus comme des options, non plus comme des disciplines mineures, mais comme des bases essentielles. Quant aux mineurs, disciplinés ou non, ils ou elles ont une âme aussi, une âme d'enfant, une âme d'enfant que l'on pervertit en y déversant des idées guerrières, des hideuses barrières, des mythes miteux d'avant-garde, d'arrière-garde, pardon, ringard. Une âme d'enfant que l'on malaxe, que l'on moleste, que l'on détruit par les haines séculaires, qu'on leur inocule, qu'on leur inculque, insulte à l'intelligence, à l'âme enfantine, si riche, si imaginative. Indigne mutation d'une âme pure vers une robotisation systémique. Il faut et il suffit de ne plus y ériger en héros tous les criminels galonnés de l'histoire, tous les généraux dégénérés, non pas l'ignorer, mais les montrer pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils furent, excusez-moi, ce qu'ils tuèrent est présenté en exemple d'autres hommes et d'autres femmes, d'autres âmes. Il faut et il suffit d'enseigner l'universel plutôt que la patrie. Non pas le service universel, qui n'a rien d'universel, puisqu'il est national, puisqu'il est militaire, mais l'universel dans toute sa splendeur, dans toutes ses merveilles, les merveilles de l'art. Pas de l'armée, de l'art tout court, si multiple, si riche. Pour que l'enfant et l'adulte évolue, change, mue, il faut bien voir vers quoi la mue mène, vers l'amour ou vers la mort. Voilà le seul choix, que l'âme des poètes soit notre seul guide spirituel, et le désarmement notre seul but par le pacifisme intégral. Très beau texte de Yves Lecard.
Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort et deux fois mort. À vos petits-enfants, l'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas, mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Le rumeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle, au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué, vous vous sentiez tellement coquifié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête. Se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait encore devant l'uniforme, mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ces Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de faire comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute, à voir le train dont vont les choses, mutin de 1917, mutin de 1917.
Encore un titre de Jacques de Brancard, mutin de 1917, qui il a sorti dans les années avant 68, en 1965. Voilà, c'est, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Et surtout que après avoir fait cette chanson-là, il aurait fallu que d'autres personnes se penchent sur les massacres qu'il a eu durant la guerre d'Algérie et une autre guerre qui était avant la guerre d'Algérie. C'était l'Indochine. Parce qu'en Indochine, il y a eu tellement... Il y a eu...
Vietnam.
Attends, je te ouvre le micro. Vas-y.
Pardon, qu'on appelle guerre d'Indochine ou le plus couramment appelé guerre du Vietnam.
Oui, oui. Après, c'est après que les Américains
ont repris le flambeau.
ont repris le flambeau. Comme disait un comique, nous, on a donné un bâton plein de merde aux Américains. Ils disent, ah oui, les Frenchies, vous savez pas faire la guerre. Nous, vous allez voir, nous, on va mettre ça. Et ça leur a coûté bonbon au niveau finance. Et c'était leur première grosse défaite.
Oui.
Jusqu'à présent, ils avaient toujours beaucoup gagné plein de trucs. Oui. Et là, ils se sont reçus une belle taloche.
En effet.
Et c'est là que les gens devraient enquêter pour savoir tous les massacres qu'il y a eu là-bas, des morts. Il suffit qu'il y ait eu autant de mutins en Indochine, parce que les jeunes qui avaient fait 39-45, ils ont été en Indo, ensuite ils ont fait l'Algérie.
Oui.
Et combien de mecs ont pété des câbles et c'est devenu ensuite des mercenaires que l'armée française a utilisé pour ses combats en Afrique. Tous les déjantés, tout ça.
En effet.
Bon, on s'est un peu dispersé, mais il ne faut pas se disperser parce que c'est la réalité et on nous cache beaucoup de réalités dans tous les présidents.
Notamment Macron.
En ce moment, oui.
Et Macron qui envoie des soldats français en Ukraine.
Oui.
Ça passe très très vite. Mais il faut avoir le coup d'œil pour choper cette information et la diffuser. Eh ben, croyez-le, mais c'est vrai. Il fait ça.
Oui.
Il peut très bien donner son accord pour que des représentants israéliens ne soient pas à Eurosatory. Ça l'empêche pas d'acheter des armes et d'envoyer des d'envoyer des armes à Gaza justement et d'envoyer des hommes des soldats femmes et hommes en Ukraine. C'est un petit peu trop facile de dire je refuse de faire ça d'un côté et en sous-main allez-y, ils n'y voient rien, ils n'y comprennent rien.
De toute façon, il avait promis qu'il allait dégraisser le mammouth en Afrique. Il a dit, il y a plus de guerre là-bas, on va pouvoir rapatrier les soldats. Hein.
Oui.
Ils vont pouvoir se reposer. Mais...
Tu parles.
Il y a toujours une guerre qui en cache une autre. C'est ça.
Mmh. Et, oui.
Alors les pauvres gars qui étaient en Afrique, ils n'ont même pas eu le temps de voir leurs parents en Europe. Hop, partis là-bas.
Et tout. Oui, oui. Hélas, mais il ne tient qu'à nous de changer les choses.
Oui. As-tu un texte, Elsa ?
Oui. L'exploitation minière des fonds marins de Greenpeace.
Ok, bon, on t'écoute.
L'océan, l'un de nos meilleurs alliés contre le dérèglement climatique. Pourquoi les océans sont importants ? Toute vie sur Terre dépend des océans. Ils sont à l'origine d'au moins 50% de l'oxygène produit chaque année sur la planète et absorbent 30% du dioxyde de carbone que nous émettons. Les océans nous nourrissent. Les fruits de mer et les poissons sont un élément clé de l'alimentation de milliards de personnes et beaucoup en dépendent pour survivre. Les océans ont des liens culturels et spirituels avec certaines communautés. Par exemple, des peuples polynésiens du Pacifique placent la haute mer au centre de l'origine de l'être humain. La bonne santé des océans permet de réguler le climat. Sans les océans, la hausse des températures rendrait le monde inhabitable. Les températures seraient trop élevées. Les eaux dites profondes, situées au-dessous de 200 mètres, représentent 90% du milieu marin, jouant un rôle essentiel dans cette régulation. Les océans abritent une incroyable biodiversité. 226 000 espèces marines sont actuellement répertoriées, mais les scientifiques estiment qu'il y en aurait encore 2 à 3 fois plus à découvrir. C'est tout un monde qu'il faut préserver. La haute mer. La haute mer... Ce sont les eaux internationales qui s'étendent au-delà des zones économiques exclusives de chaque pays. La haute mer représente environ 60% des océans, mais à ce jour, seulement 1% de cette surface fait l'objet d'une forme de protection. Dérèglement climatique, pollution, plastique, surpêche, etc. Greenpeace lutte inlassablement sur tous les fronts pour protéger la haute mer. Pour ce faire, nous nous appuyons notamment sur la science et sur ce que disent les spécialistes du climat et des océans. Il faut créer un réseau mondial de réserves marines qui protégerait au moins 30% de la biodiversité des océans d'ici à 2030. Pourquoi 30%? Parce que, selon les scientifiques, c'est le minimum pour permettre aux océans de se régénérer et de maintenir leur bonne santé à terme. Une victoire historique nous met sur la bonne voie. Une étape déterminante a été franchie en mars 2023. Un traité historique sur les océans a été adopté par les Nations Unies après presque 20 ans de négociations et d'intenses mobilisations de Greenpeace et des citoyens et citoyennes du monde entier. Il donne un cadre juridique à la haute mer permettant à terme de créer des aires marines protégées. Il rend donc possible l'objectif de protéger 30% des océans du monde d'ici à 2030. Désormais, nous veillerons à ce que tous les États engagés, dont la France, ratifient ce traité pour le faire entrer rapidement en vigueur. Les grands fonds. Malheureusement, une nouvelle menace plane désormais sur les fonds marins et leurs habitants, l'exploitation minière. Notre objectif, protéger ces écosystèmes merveilleux et leur biodiversité unique de l'appétit des industriels. Les océans regorgent d'endroits encore inexplorés, notamment les grands fonds. Qu'est-ce qu'on appelle grands fonds? Toutes les eaux à partir de 200 mètres et jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. C'est le plus vaste habitat disponible pour le monde vivant et le plus difficile d'accès. De nombreuses recherches sont encore nécessaires pour comprendre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes au fond des océans. Exploitation minière des fonds marins, une nouvelle menace. De quoi s'agit-il? Des compagnies minières veulent envoyer des bulldozers retourner le fond des océans à plusieurs kilomètres de profondeur et dans l'obscurité la plus totale. Pourquoi? Elles veulent labourer le plancher océanique pour extraire des minerais considérés comme précieux. Cuivre, magnésium, cobalt ou encore nickel. Le problème? Elles vont détruire sur leur passage des milliers d'espèces, les asphyxiant avec les nuages de matière que les bulldozers soulèvent. D'autres espèces présentes dans la colonne d'eau, comme les cétacés, seront perturbées par la pollution sonore et lumineuse de toute cette activité. Les victimes? C'est toute la biodiversité encore méconnue au fond des océans qui risque de subir des dommages irréversibles, mais pas seulement. Depuis 2022, Greenpeace a entamé des recherches sur les conséquences environnementales de l'exploitation minière en eau profonde. En février 2023, nos scientifiques ont publié un article démontrant les impacts sur les grands cétacés du bruit engendré par l'exploitation minière. Parmi eux, les mers ne pourraient plus communiquer avec leurs baleineaux, entraînant des risques de séparation mer-petit. Leur alimentation serait perturbée. Elles seraient obligées de remonter rapidement à la surface, ce qui perturberait leur comportement. Le même mois, nous avons publié un rapport qui montre que nous n'avons pas besoin de ces matériaux pour la transition énergétique, réfutant ainsi l'argumentaire principal des compagnies minières. Pourquoi nous pouvons l'éviter ? Si les industriels souhaitent aujourd'hui se lancer dans l'extraction de minerais en eau profonde, c'est qu'ils sont à la recherche de nodules polymétalliques. Ces petites formations rocheuses contiennent des métaux utilisés dans la fabrication de batteries et dans certaines technologies. Ce sont des métaux qui, aux yeux des entreprises minières, justifient le besoin d'exploiter les grands fonds marins. Pourtant, les scientifiques l'affirment. Les grands fonds marins ne fourniront pas les métaux nécessaires à la transition vers des modes de transport électriques ou, excusez-moi, ou les technologies vertes. Je vous prie de m'excuser. Il y a un chat qui fait ses griffes dans ma gorge. Alors, ou les technologies vertes. En effet, la plupart des nodules des fonds marins contiennent très peu de métaux, rendant difficile leur extraction. Les procédés métallurgiques pour extraire les métaux ne sont pas au point. Certains métaux indispensables à ces technologies ne sont pas présents dans ces nodules-là. À Greenpeace, nous sommes convaincus que nous ne sauverons pas la planète en détruisant une partie. Ah, dis donc, Ilminé, tu vas te calmer un petit peu, là. François Chartier, chargé de la campagne Océan chez Greenpeace France, le dit ainsi. La transition énergétique et la lutte contre le changement climatique doivent se faire via une utilisation raisonnée des métaux nécessaires axés principalement sur la sobriété, le recyclage et l'économie circulaire. Pour éviter d'exploiter les fonds marins, le monde de demain doit donc être pensé autour du recyclage, de la durabilité et de la réparabilité des produits. Nous devons prendre conscience que nous ne pouvons continuer de produire ainsi sans conséquence. L'exploitation minière des océans n'est pas une solution à la crise climatique, elle ne fera que l'aggraver. Nous pouvons et devons éviter que l'exploitation minière en eau profonde voie le jour. Alors, comment Greenpeace agit-elle ? La méthode Greenpeace, c'est l'investigation, la mobilisation et l'action pour informer le grand public sur les enjeux écologiques et faire pression sur les responsables politiques et économiques. Plaidoyer. Qu'est-ce que l'AIFM ? Alors, l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, est l'organisme qui a pour mission de réglementer l'exploitation et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins au-delà des eaux nationales. Récemment, l'exploitation des grands fonds marins a suscité le plus grand intérêt des gouvernements et des entreprises de l'industrie minière, dû notamment aux enjeux d'évolution technologique. Voici cinq dates clés. Juillet 2022. Lors d'un conseil de négociation de l'AIFM, la France se positionne en faveur de l'adoption d'un code minier qui ouvrirait de fait la voie à l'exploitation minière des océans, refusant de soutenir la mise en place d'un moratoire sur cette activité. Alors, moratoire, un moratoire est un terme juridique qui désigne le fait de suspendre une action ou un processus. Novembre 2022. Après des mois de campagne publique, des ONG et d'alertes lancées par la communauté scientifique, le président français Emmanuel Macron se prononce publiquement contre l'exploitation minière des fonds marins. Une première victoire pour Greenpeace France. Janvier 2023. L'Assemblée nationale vote à une très grande majorité une résolution appelant à un moratoire sur l'exploitation minière en eau profonde. Deuxième plus grande nation maritime du monde, la France peut avoir un poids considérable. Mars 2023. Greenpeace participe en Jamaïque à la nouvelle session de négociation de l'AIFM au sein d'une délégation officielle composée notamment de militants et militantes originaires des îles du Pacifique, venus témoigner de l'impérieuse nécessité de préserver l'océan, qui occupe une place très importante dans leur culture. Aucun accord n'est trouvé sur un processus d'examen beaucoup plus contraignant face aux demandes d'exploitation qui pourraient arriver, même en l'absence de code minier. Juillet 2023, date butoir. Si tous les pays ne se sont pas mis d'accord pour empêcher les industriels de forcer la main à l'AIFM et de pouvoir exploiter les fonds marins, ils pourront démarrer leur activité à cette date, sans même l'adoption d'un code minier en raison d'une règle juridique contestée. Chez Greenpeace, nous sommes convaincus de la force de notre travail de plaidoyer. Nous défendons avec passion les intérêts des océans. Grâce au travail que nous réalisons aux côtés de nombreuses autres associations, le sujet de l'exploitation minière des fonds marins a été mis sur le devant de la scène et a permis d'interpeller les pouvoirs politiques qui sont décisionnaires. Recherche, rapport sur les cétacés. En février 2023, le verdict tombe. L'exploitation minière en eau profonde mettrait en danger les cétacés. Une étude menée par Greenpeace a croisé les potentiels sites d'exploitation minière et les zones de présence de cétacés comme les baleines, les dauphins ou encore les marsouins. Le résultat est sans appel. Ces sites se chevauchent. La baleine bleue est aussi concernée par cette industrie, alors même que c'est une espèce reconnue comme menacée dans le monde entier. Ce qui inquiète le plus les scientifiques, c'est la perturbation sonore qui pourrait complètement brouiller les communications entre cétacés d'une même espèce. S'en suivrait une incapacité à s'alerter des dangers ou à se retrouver alors que ces groupes se déplacent. En outre, les spécialistes affirment qu'il faudrait mener de toute urgence de plus amples études sur les conséquences que pourrait avoir l'exploitation minières sur les océans et leur biodiversité. On parle là d'effets durables et irréversibles. Action. Au-delà de notre travail de plaidoyer, nous menons des actions de confrontation non violente pour sensibiliser le grand public et interpeller les responsables politiques. Par exemple, en mars 2023, nous avons organisé plusieurs actions d'interpellation. Dans les eaux du Pacifique, des militantes et militants de Greenpeace, Nouvelle-Zélande, ont escaladé la coque du navire britannique James Cook, qui effectuait des recherches dans la zone en vue d'exploiter les minerais des profondeurs. Une banderole indiquant « Say no to deep sea mining »,« Dites non à l'exploitation minière en eau profonde », a été déployée alors que deux activistes autochtones maoris nageaient, l'un tenant le drapeau maori et l'autre un drapeau indiquant « Don't mine the Moana », n'exploitez pas l'océan. En effet, les peuples du Pacifique ont été exclus pendant trop longtemps des décisions qui ont un impact sur leur territoire et leurs eaux. Par cette action, ils souhaitent exprimer haut et fort leur opposition à cette industrie. Greenpeace est arrivé en Jamaïque à bord de son bateau l'Arctic Sunrise, en vue de participer aux négociations de l'AIFM. Afin de faire pression sur les négociateurs, l'équipage avait déployé une banderole portant un message clair. « No deep sea mining », non à l'exploitation minière en eau profonde. C'est l'association de notre travail de plaidoyer, de nos recherches scientifiques et de nos actions qui nous permet aujourd'hui d'interpeller les responsables politiques et de faire connaître du grand public les menaces qui plane sur nos fonds marins. Vous aussi, vous pouvez agir. Sans vous, nous n'aurions pas autant de force. C'est ensemble que nous pouvons empêcher cette industrie polluante de voir le jour. Agissez dans votre quotidien. Vous l'avez compris, les industriels veulent exploiter les fonds marins pour obtenir de nouveaux matériaux qui, notamment, entrent dans la composition de nos objets électroniques. Face à cela, vous pouvez, par exemple, acheter du reconditionné plutôt que du neuf. Gardez le plus longtemps possible vos objets électroniques comme votre smartphone. Donnez vos objets usagés pour que les pièces puissent être utilisées de nouveau. Ces trois actions peuvent avoir beaucoup d'impact, n'en doutez pas. En tant que consommatrices et consommateurs, nous avons du pouvoir. Nous pouvons décider comment nous souhaitons consommer et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour les industriels. Signez notre pétition. Parce que les gestes individuels sont essentiels mais ne suffisent pas, il faut passer à la mobilisation collective. Aujourd'hui, plus de 225 000 voix se sont déjà dressées en France contre cette exploitation. Chaque personne qui ajoute sa signature à notre pétition, c'est une voix en plus qui se fait entendre. Plus nous serons nombreux et nombreuses à dire que nous ne voulons pas de cette industrie polluante et destructrice, plus notre demande aura du poids auprès des gouvernements. Donc la pétition se trouve sur le site de Greenpeace et d'autres. Et puis il y a les dons pour soutenir Greenpeace.
Merci à toi.
Mon cher député, votre siège, vous l'avez gagné à une voix de majorité. Or, cette voix, c'était la mienne. J'ai voté le dernier à 19h59 et des poussières. C'est pas du bluff, il y a des témoins qui s'en souviennent. Dans vos réunions, sur vos affiches, à la télé, vous avez dit et répété que vous feriez tout pour nous plaire. C'est donc sans vergogne, cher ami, que je vous écris pour les trois ou quatre petits riens que voici. Ma sœur voudrait bien la Légion d'honneur, mon frère, ne pas faire son service militaire. Ma tante, oh, pas grand-chose, le jardin des plantes, ou à défaut, elle aime la nature, un petit poste à l'agriculture. Mon fils, alors lui, n'importe quoi à la justice. Mon père, pareil, mais aux affaires étrangères. Et moi, oh moi, j'ai pas d'ambition. Chargé de mission, ça m'irait. Mais attention, hein, sans précision. Monsieur, les députés grâce à moi, pas de nouvelles depuis des mois, qu'est-ce qui se passe donc? Je m'interroge, je m'étonne. Seriez-vous un menteur, un ingrat, un arriviste sans foi ni loi? Vous n'êtes pas là, jamais là. quand je téléphone. Alors je vous écris de ma chef pour vous rappeler que c'est moi. Bref, pour vous rafraîchir en tant soit peu la mémoire. Je suis patient et j'ai mes limites. Ce que j'ai demandé, je le mérite. Alors faites vite et sans histoire. Ma sœur, eh bien, où il voudrait la Légion d'honneur, c'est son droit. Mon frère, ne pas faire son service militaire, quoi être plus simple. Ma tante, une misère, le jardin des plantes, ou à défaut, elle aime la nature, un petit poste à l'agriculture. Je me répète évidemment, c'est vous qui m'y forcez. Mon fils à la justice, mon père pareil, mais aux affaires étrangères et moi. Ah ben moi j'ai réfléchi, l'immobilier me tente assez, je voudrais des crédits, et puis du terrain, enfin trois fois rien. Bougre de salaud! Oh, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais voté pour Piazzano. Ouais, ouais, le radical de gauche. Je me vengerai aux élections prochaines. Mais t'auras profité de l'aubaine suffisamment pour plus jamais chercher d'embauche. Je me suis renseigné, t'as placé tout ton monde, voyou. Dans le fromage, t'as fait ton trou, 10 trous, 20 trous, un vrai gruyère. Oh, mais ça n'en restera pas là. J'ameuterai la presse contre toi. Je dirai tout à la France entière. Sa sœur, ouais, 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 ça sera la Légion d'honneur telle que son frère. Alors lui, il fait pas son service militaire. Non, non, non. Sa tante dirige le jardin des plantes. Son cousin Arthur, ancien pédicure, dit son mot à l'agriculture. Son fils, c'est le comble, à son bureau à la justice. Son père, gâteux, alciaire aux affaires étrangères. Il n'y a qu'une chose à faire. Si vous ne voulez plus voir ça, la prochaine fois qu'on vous demandera de refaire des parlementaires, je serai candidat. Votez pour moi.
Oui, bon, je reprends l'antenne. Je remercie Daniel qui apprécie notre émission. C'est un auditeur fidèle de Radio Libertaire. Voilà. Donc c'était Monsieur Jacques de Broncard. Hein, c'est une petite chanson qu'il a sortie en 1974, tirée de son album « Je vis ». Donc là, je vais vous lire deux textes. Et ensuite, Elsa vous lira... la suite du livre de... Ah, t'as encore ça aussi. Je vais lire les deux textes, on verra si tu lis le livre de Bâton du Juvenel ou l'autre texte. On va voir. Voilà. Donc, je vous ai promis un texte de Serge qui anime tous les lundis avec sa compagne Monique Trou Noir. Voilà. C'était sur Eurosatory. Alors que les budgets militaires du secteur de l'armement augmentent fortement dans la plupart des États, Eurosatory, le plus grand salon mondial de l'industrie de la mort, arrive au bon moment, les 17 et 21 juin prochains, à Villepinte. Donc, normalement, c'est dans 15 jours, une quinzaine de jours. Sont attendus 1800 exposants, 90 pays, 100 000 visiteurs avides de découvrir 500 nouveaux produits et systèmes. De juteux nouveaux contrats vont être signés. Mais craignant que l'atmosphère conviviale et pacifique ne soit perturbée par quelques troubillons, les 74, je dis bien 74 entreprises israéliennes prévues ont été invitées à ne pas se présenter et à continuer à faire des affaires et des massacres ailleurs. Les victimes de très nombreuses guerres qui animent notre planète pourront ainsi se sentir fiers d'être tués par des hommes bénéficiant des derniers bienfaits des innovations technologiques, souvent proposées par des start-up animées par de jeunes scientifiques talentueux, ainsi que l'annonce le site du salon. Eurosatory connecte les start-up et les acteurs nationaux de la défense et de la sécurité. Ceux qui auraient tendance à dénigrer le niveau intellectuel des galonnés seraient surpris de savoir que 157 conférences de haut niveau sont proposées. citons parmi les divers thèmes regroupant chacun plusieurs conférences. Innovation, drones et lutte anti-drones. Tain, c'est bizarre. On crée des drones et on crée des trucs pour bousiller les drones. Ils gâchent l'argent pour n'importe quoi. Défense aérienne et antimissile. Idem. Cybersécurité. Défense durable. Ah, intelligence artificielle et apprentissage automatique. Ainsi, l'intelligence artificielle suppléera, si nécessaire, l'intelligence un peu défaillante, sommeillant sous certains képis. Ah ben, ça, c'est pas mal, ça. Merci à Serge de Trou Noir de nous avoir envoyé ce petit papier. Là, je vais vous lire un texte qui parle du SNU, le grand combat d'un de nos membres, Bernard Bessa, ainsi que l'ensemble des gens de l'Union pacifiste. En marche vers le réarmement de la nation française. Profitant des guerres dans le monde qui font peser une menace sur les pays européens, le président français a décidé le réarmement de la nation. Le SNU, Service National Universel, fait partie du dispositif. La généralisation du SNU. La première phase du SNU, le séjour de cohésion, est réservée à des jeunes filles et garçons de 15 à 17 ans volontaires. Avec la généralisation dans les établissements scolaires, le SNU est en passe de devenir obligatoire. Dès l'année 2024, un stage de fin d'études est devenu obligatoire pour les élèves de seconde au mois de juin. Donc, on est en plein dedans en ce moment. Environ 500 000 lycéens sont concernés. On sait qu'il est très difficile de trouver un stage pour les élèves qui n'ont pas de relations et que seul un tiers, dans le meilleur des cas, sera en stage. C'est-à-dire les enfants de militaires, déjà. Eux, ils savent où. Ils n'ont même pas besoin de frapper à la porte. Ils demandent « Dis, papa, je peux trouver un stage ?»« Oui, mon fils. » Connerie, tout ça. Le séjour de création, de cohésion du SNU est alors proposé en remplacement du stage. De très nombreux lycéens seront amenés à choisir cette formule gratuite. La question qui se pose pour les enseignants, que deviendront les lycéens qui ne veulent pas aller au SNU? Ou les élèves de nationalité étrangère qui ne sont pas admis au SNU? Tiens, c'est bizarre. Même s'ils sont nés en France de parents étrangers, ils ne sont pas admis. On sent le facho. Ça sonne. Le ministère de l'Éducation nationale a également proposé aux établissements scolaires de rentrer dans un programme de classe et lycée engagé, un dispositif qui permettra d'imposer le SNU sur le temps scolaire. Les lycées et les enseignants étant encouragés par des primes, plusieurs établissements qui manquent d'argent ont déjà répondu à l'appel. En ce moment, ils ont tellement réduit le budget, ils ont augmenté le budget de l'armée et réduit le budget de l'éducation nationale. Le gouvernement français ne cesse d'affirmer que le SNU n'a pas vocation à remplacer le service militaire, suspendu depuis 1996, à l'époque du Chirac. Pourtant, les rites militaires, uniformes, levée de drapeau, marche au pas, chant de la Marseillaise imposés aux jeunes pendant le séjour de cohésion sont déjà un apprentissage à la vie militaire. Le réarmement de la nation, voulu par le président français, se concrétise dans la deuxième phase du SNU. La mission d'intérêt général, le MIG, pour valider leur CNU, les jeunes gens doivent accomplir un MIG dans une association, une administration, la gendarmerie ou l'armée. Les associations de cadets de gendarmerie ou de cadets de la défense se sont multipliées pour accueillir le maximum de jeunes sous couvert d'apprentissage des valeurs républicaines, la force de l'ordre, où ont surtout le désir de faire naître des vocations de recruter dans les corps en uniforme. L'un des derniers exemples des efforts de l'armée pour attirer les jeunes est l'implication dans l'armée de l'air, dont le dispositif. Sous le titre « La jeunesse à l'honneur sur la base aérienne 181 », l'armée de l'air et de l'espace nous apprend que le 5 avril 2024, des jeunes du SNU se sont mis au cœur des actions de la base aérienne 181, lieutenant Roland-Garros. Il s'agit pour eux, au rythme d'activités pédagogiques et paramilitaires, de renforcer la notion d'engagement au profit de la nation. Cette MIG-R contribue à diffuser l'esprit de défense, à parfaire l'occulturation aux enjeux de défense et naturellement à l'appréhension des diverses formes d'engagement au sein du ministère des Armées, active et réserve. Cette édition a été marquée par les valeurs de l'olympisme pendant que Paris se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Le coup du SNU. Les opposants du SNU s'organisent dans les établissements scolaires grâce à la mobilisation de tous les syndicats enseignants contre ce dispositif. Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation de la Jeunesse, a annoncé devant la Commission de la Culture et de l'Éducation du Sénat le 4 avril 2024, nous partons sur un coût de 2 milliards que l'on souhaite faire évoluer à la baisse. Nous sommes actuellement à 1,3 million en diminuant de 2 jours le séjour de cohésion. Le séjour de cohésion du SNU serait ainsi amputé de 2 jours, ce qui n'enlève rien à la volonté de développer le SNU au sein de l'éducation nationale. Les collectifs non au SNU n'ont pas encore réussi à faire reculer totalement le gouvernement. C'était un texte de Bernard Bessa. Une petite chanson.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belles à votre propre désigné. Halte aux cons. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort aux cons. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'ils la sautent, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvres cons. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leurs terres. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort aux cons. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons! Halte aux cons!
Le gouvernement, tous des cons. Et en ce moment, ces chansons de Michel Valette, qui datent des grandes années où Gérard était actif et qu'il avait reçu ici, c'est des chansons qui passent tous les siècles. Elsa, tu veux nous lire un petit peu de Bertrand de Chauvenel ?
Et on peut dire que ça rentre parfaitement avec notre quotidien actuel. Les théories de la souveraineté considérées dans leurs résultats. Si maintenant nous embrassons d'un coup d'œil les théories dont nous venons d'examiner l'esprit, nous remarquons que toutes tendent à faire obéir les sujets en leur montrant derrière le pouvoir un principe transcendant, Dieu ou le peuple, armé d'un droit absolu. Que toutes tendent aussi à subordonner effectivement le pouvoir aux dix principes. Elles sont donc doublement disciplinaires. Disciples du sujet, discipline du pouvoir. En tant qu'elles disciplinent le sujet, elles viennent renforcer le pouvoir de fait. Mais en liant étroitement ce pouvoir, elles compensent ce renforcement, à condition qu'elles réussissent à aménager pratiquement cette subordination du pouvoir. C'est la difficulté. Les moyens pratiques employés pour tenir le pouvoir en lisière prennent d'autant plus d'importance que le droit souverain qu'ils risquent de s'arroger est conçu comme plus illimité et qu'on... Excusez-moi, c'est encore le chat dans ma gorge, je vous prie de m'excuser. Alors, je répète. Les moyens pratiques employés pour tenir le pouvoir en lisière prennent d'autant plus d'importance que le droit souverain qu'il risque de s'arroger est conçu comme plus illimité et comporte par suite plus de dangers pour la société si le pouvoir s'en empare. Mais le souverain... Mais le souverain est incapable de se manifester in toto pour retenir les régents dans leurs devoirs. Il lui faut donc un corps contrôleur, et celui-ci, placé à côté ou au-dessus du gouvernement, tâchera de le saisir, de réunir les deux qualités de régent et de surveillant, ce qui l'investira pratiquement du droit illimité de commander. On ne saurait donc user de trop de précautions, ce qui amène à émietter le pouvoir et son contrôleur par une division des attributions ou une succession rapide des titulaires, cause de faiblesse dans la gestion des intérêts sociaux et de désordre dans la communauté. Faiblesse et désordre à la longue intolérable et qui, par une réaction naturelle, cause enfin la réunion des fragments de la souveraineté en un tout, le pouvoir se trouvant alors armé d'un droit despotique. Le despotisme sera d'autant plus accentué, d'ailleurs, qu'on aura plus largement conçu le droit de souveraineté dans le temps qu'on le croyait à l'abri de tout accaparement. Si l'on n'imagine pas du tout que les lois de la communauté puissent être modifiées, le despote restera tenu par elles. Si on l'imagine... que dans ces lois, il y a une part immuable qui correspond au décret divin, cela du moins sera fixe. Et l'on entrevoit ici qu'il peut sortir de la souveraineté populaire un despotisme plus poussé que de la souveraineté divine. Car un tyran individuel ou collectif qui, par hypothèse, aurait réussi à usurper l'une ou l'autre souveraineté, ne pourrait s'autoriser de la volonté divine qui se présente sous les espèces d'une loi éternelle pour ordonner n'importe quoi. Au contraire, la volonté générale n'est pas fixe par nature, mais mobile. Au lieu qu'elle soit prédéterminée dans une loi, on peut la faire parler en lois successives et changeantes. Le pouvoir usurpateur a donc, dans ce cas, les coudées plus franches. Il est plus libre et la liberté du pouvoir s'appelle l'arbitraire. Chapitre 3. Les théories organiques du pouvoir. Ce qui, dans les théories de la souveraineté, explique et justifie l'obéissance civile, c'est le droit de commander que le pouvoir tire de son origine divine ou populaire. Mais le pouvoir n'a-t-il pas un but ? Ne doit-il pas tendre au bien commun, terme vague à contenu variable dont l'incertitude répond au caractère indéfini de l'aspiration humaine ? Et ne se peut-il pas qu'un pouvoir, légitime par son origine, gouverne de façon tellement contraire au bien commun que l'obéissance soit mise en question ? Les théologiens ont fréquemment traité ce problème et ainsi dégagé l'idée de but. Certains ont avancé que le pouvoir devait être obéi, même injuste. Même le plus grand nombre et les plus hautes autorités ont tenu au contraire que l'injuste fin du gouvernement était destructrice de sa juste cause. Et particulièrement saint Thomas paraît accorder plus d'importance au but du pouvoir qu'à sa cause même. La révolte contre une autorité qui ne poursuit pas le bien commun n'est plus qu'une sédition. Après avoir joué dans la pensée catholique médiévale le rôle d'un correctif à la notion de souveraineté, l'obéissance due au pouvoir en raison de sa légitimité peut être dénoncée s'il cesse de tendre au bien commun, l'idée de but s'éclipse dans les systèmes de la souveraineté populaire. En termes médiévaux, s'il administre in destructionem, alors qu'il doit le faire in aedificationem. Ce n'est pas certes qu'on n'ait plus dit que la fonction du pouvoir est de procurer l'utilité générale. On ne l'a jamais tant dit. Mais on a postulé qu'un pouvoir qui serait légitime, qui émanerait de la société par la même nécessairement rechercherait le bien social, car la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique. Citation du contrat social. L'idée de but ne reparaît qu'au XIXe siècle, et pour exercer une influence tout autre qu'au Moyen Âge. Alors en effet, elle avait mis obstacle au développement du pouvoir. Maintenant au contraire, elle assistera à son développement. Renversement qui tient à une façon toute nouvelle d'envisager la société, non plus comme un agrégat d'individus admettant des principes de droit commun, mais comme un organisme qui se développe. Il faut nous arrêter sur cette révolution intellectuelle parce que d'elle, les nouvelles théories de la cause finale tirent leur importance et leur caractère. La conception nominaliste de la société. Les théories de la souveraineté trouvent leur explication et dans une large mesure leur remède dans la conception de la société lorsqu'elles ont été formulées. Avant le XIXe siècle, il n'est pas venu à l'esprit des penseurs occidentaux que dans un ensemble humain soumis à une autorité politique commune, il peut y avoir autre chose de réellement existant que les individus. Les Romains n'avaient pas vu les choses autrement. Le peuple romain était pour eux un assemblage d'hommes, non pas à la vérité, un assemblage quelconque, mais un certain assemblage tenu par des liens de droit et pour jouir d'un avantage commun. Ils n'ont pas imaginé que cet assemblage donna naissance à une personne distincte des personnes associées. Où nous disons « la France » avec le sentiment que nous parlons de quelqu'un, ils disaient, selon les époques, « populus romanus plebisque » ou « senatus populusque romanus », signifiant clairement par cette dénomination essentiellement descriptive qu'il ne se représentait pas un personnage, Rome, mais voyez la réalité physique, un ensemble d'individus groupés. Le mot « populus », dans son acceptation large, évoque pour eux quelque chose de parfaitement concret. Les citoyens romains convoqués en assemblée. Ils n'ont pas besoin d'un mot équivalent à notre vocable de nation, parce que l'addition des individus ne produit, à leur sens, qu'une somme arithmétique et non pas un être d'une espèce différente. Ils n'ont pas besoin non plus du mot « État » parce qu'ils n'ont pas conscience d'une chose transcendante qui vit en dehors et au-dessus d'eux, mais bien d'intérêts qui leur sont communs, qui forment la res publica. Dans cette conception léguée au Moyen-Âge, il n'y a de réel que les hommes. Ces hommes, théologiens médiévaux et philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, sont d'accord pour les déclarer antérieurs à toute société. Ils ont constitué la société lorsqu'elle leur est devenue nécessaire, soit par la corruption de leur nature, théologiens, soit par la férocité de leur instinct, obès. Mais cette société reste un corps artificiel, Rousseau le dit expressément. Et obès, même, quoiqu'il ait fait mettre en frontispice à l'un de ses ouvrages un géant dont la silhouette est composée de formes humaines additionnées, n'a pas pensé que Léviathan vécut d'une vie propre. Alors, la citation de Rousseau, c'est « Ainsi, bien que le corps artificiel du gouvernement soit l'ouvrage d'un corps artificiel, le corps politique ou la société. » Citation du contrat social. Il n'a pas de volonté, mais la volonté d'un homme ou d'une assemblée passe pour sa volonté. Cette conception purement nominaliste de la société fait comprendre la notion de souveraineté. Il n'y a dans la société que des hommes associés et dont la dissociation est toujours possible. Un autoritaire comme Hobbes, un libertaire comme Rousseau s'en montrent également convaincus. L'un y voit un désastre qu'il faut prévenir par la plus extrême rigueur. Hobbes, à qui les troubles civils causaient une telle horreur, avait fui son pays dès leur apparition et ne voulait rendre le pouvoir tellement absolu que parce qu'il exécrait par-dessus tout la rechute humaine dans ce qui lui apparaissait à tort ou à raison l'état primitif, la lutte de tous contre tous. Ayant développé sa théorie du droit de commandement illimité, il répondrait ainsi aux objections. Mais on pourra ici objecter que la condition des sujets est bien misérable, puisqu'ils sont exposés aux cupidités et autres passions irrégulières de ceux qui ont en main un pouvoir tellement illimité. Et communément, ceux qui vivent sous un monarque accusent la monarchie, et ceux qui vivent en démocratie ou régis par une quelconque autorité souveraine attribuent leur incommodité à cette forme de gouvernement, alors que le pouvoir, sous toutes ses formes, s'il est assez entier pour les protéger, est toujours le même. Il ne considère pas que la condition humaine n'est jamais sans quelque incommodité et que la pire que puisse infliger un gouvernement, de quelque forme soit-il, est à peine sensible au regard des misères et des calamités horribles qui accompagnent une guerre civile et de la condition anarchique d'homme sans maître, affranchi de toute loi et de tout pouvoir coercitif qui s'oppose à leur rapine et à leur vengeance. Citation du Léviathan, première édition de 1651. Alors, l'autre, une suprême ressource offerte aux citoyens opprimés. Mais si la société n'est qu'un assemblage artificiel d'hommes naturellement autonomes, que n'a-t-il pas fallu pour les plier à des comportements compatibles et pour leur faire admettre une autorité commune ? Le mystère de la fondation sociale exige l'intervention divine ou de moins une première convention solennelle de tout le peuple. Et quel prestige encore ne faut-il pas pour maintenir quotidiennement la cohésion de l'ensemble ? On doit supposer un droit qui force le respect et qui, à cette fin, ne sera jamais trop exalté. La souveraineté, que d'ailleurs on accepte ou non de la confier immédiatement au pouvoir. Certes, quand des parties indépendantes s'accordent pour créer certaines fonctions de relation et y préposer certains commissaires, on ne saurait, si l'on veut assurer la perpétuité du lien et la stricte exécution des obligations encourues, prêter trop de majesté à ceux qui devront continuellement ramener les volontés singulières dans la voie commune. Nous avons vu de nos jours conclure un contrat social entre personnes se trouvant dans l'état de nature. Bellum omnium contra omnes. Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser une petite seconde. Voilà. Un besoin urgent de m'hydrater la gorge. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Ces personnes... C'était les puissances du monde, ce contrat, c'était la société des nations. Et ce corps artificiel s'est dissocié parce qu'il ne s'y trouvait point de pouvoir secouru par un droit transcendant auquel les droits des parties ne fussent pas opposables. Si l'on veut me permettre un exemple plus familier, il faut aussi à une fédération de football une autorité discrétionnaire pour que l'arbitre d'un match, faible au milieu de 30 géants passionnés, fasse écouter son sifflet. Dès qu'on se posait in abstracto le problème de construire et de maintenir une association entre éléments autonomes, dès lors qu'on se représentait la personnalité de ces éléments comme n'étant pas substantiellement modifiée par l'adhésion au pacte social, dès lors qu'on imaginait la non-conformité et la sécession comme toujours impossibles, on ne pouvait se passer d'une souveraineté imposante qui pût communiquer sa dignité à des magistrats censés nus et sans force. Replacée dans le cadre de ces postulats, l'idée est logique, elle a même de la grandeur. Mais si la société est un fait naturel et nécessaire, s'il est matériellement et moralement impossible à l'homme de s'en retirer, si bien d'autres facteurs que la puissance des lois et de l'État le fixent dans des comportements sociaux, alors la théorie de la souveraineté apporte au pouvoir un renfort excessif et dangereux. Les dangers qu'elle comporte ne peuvent se manifester pleinement tant que subsiste dans les esprits l'hypothèse fondamentale qui lui a donné naissance, l'idée que les hommes sont la réalité et la société une convention. Cette opinion entretient l'idée que la personne est une valeur absolue, auprès de quoi la société ne fait figure que de moyens. D'où les déclarations des droits de l'homme, droits sur lesquels le droit de souveraineté lui-même se brise, ce qui paraît logiquement absurde si l'on se souvient qu'il est par définition absolue, mais ce qui s'explique très bien si l'on se souvient que le corps politique est artificiel, que la souveraineté est un prestige dont il est armé à une fin, et que toutes ces ombres ne sont pas valables contre la réalité de l'homme. Tant que c'est conserver la philosophie sociale individualiste et nominaliste, la notion de souveraineté n'a donc pu faire les ravages qu'elle cause sitôt que cette philosophie s'affaiblit. De là, notons-le en passant, la double acception de la démocratie entendue dans la philosophie sociale individualiste comme régime des droits de l'homme et dans une philosophie politique divorcée d'avec l'individualisme comme l'absolutisme d'un gouvernement se réclamant des masses. Je continuerai le mois prochain.
Merci Elsa. Merci. J'espère que vous avez aimé cette émission. On a nommé tout notre cœur pour le faire. Donc nous allons nous retrouver dans un mois, c'est-à-dire le 4 juillet, qui sera peut-être la dernière avant les vacances. Voilà. Je remercie Elsa pour ces belles lectures et vos textes.
Voilà.
Et nous allons passer le générique et après ce sera le jazz avec Yves. À bientôt. Petit problème avec un lecteur. Ah, c'est bizarre ça. Il me fait ça alors qu'il a bien marché jusqu'à présent.
Ça va ?
Bah, ça marche pas. Il veut pas marcher, alors qu'est-ce que ça veut dire?
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Tu vas bien?
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça:
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Jazz Libre, c'est Radio Libertaire 89.4 et DAB+ en région parisienne. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous êtes en direct des studios et notre ami Laurent est à la réalisation technique. Voilà. Comme d'habitude, téléchargez la souscription. Nous avons besoin de votre soutien pour renouveler le matériel, pour l'entretenir également et puis pour vous préparer des émissions de qualité que vous allez retrouver sur l'agenda de la radio que vous allez trouver sur internet radiolibertaire.net. Vous avez également la possibilité de réécouter l'ensemble des émissions pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Et vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr si vous avez besoin d'informations sur les playlists ou ce que vous voulez. Vous avez également ma page Facebook Yves Jazzlib sur laquelle je mets les informations liées à l'émission, les playlists, les liens de téléchargement que vous pouvez évidemment avoir en podcast ou en téléchargement. Oui, je rappelle que vous pouvez télécharger les émissions, hein. Pas de problème, c'est en MP3, la qualité est pas mauvaise. Que vous dire d'autre ? Eh bien, écoutez, pour une fois, pas de nécro. Enfin, j'en referai parce que j'en ai oublié une. Il s'agit du contrebassiste danois Palle Danielsson, qui a joué notamment avec Jan Garbarek, Kev Jarrett, etc., etc. Donc, comme j'ai décidé de faire une émission sur Jan Garbarek dans quelques temps, ce sera la surprise. Enfin, la surprise est programmée, disons. J'en profiterai pour vous parler de ce contrebassiste qui nous a quittés à 77 ans le mois dernier. D'autre part, d'autres acteurs du jazz ont disparu, qui n'étaient pas musiciens, mais qui ont participé grandement à l'élaboration de cette musique. Jean-Christophe Allard, d'ailleurs, par exemple, qui était vraiment un grand de ce monde du jazz que nous essayons de défendre par tous les moyens. Voilà. Donc ce soir, nous allons commencer par les nouveautés qui, alors, sont plus forcément très nouvelles pour certaines, parce que disons que j'ai un peu, avec ces histoires de nécro, ça a un tout petit peu passé à l'as. Mais enfin, nous allons quand même essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc nous allons commencer par un groupe pas du tout connu. Alors moi, je ne les connais pas du tout. Pour tout dire, ça m'a été communiqué par un camarade de la radio qui ne fait pas de jazz, mais qui est en rapport avec un certain nombre de musiciens, et notamment des musiciens bretons. Alors ce sont des